Fred Film Radio, Cinéma du Real, Paris, France.
Vous êtes sur Fred Film Radio, Bénédicte Pro, en direct du centre Georges Pompidou pour le festival Cinéma du Réel. Et je suis aujourd'hui en présence de Stan Neumann.
Bonjour.
Vous enseignez à la FEMIS, vous êtes connu pour faire rimer architecture et cinéma depuis bien longtemps déjà. Et vous êtes l'auteur du film Austerlitz, présenté en ouverture du festival hier soir. Alors, c'est difficile de raconter ce film, presque aussi difficile que raconter les caves du Vatican. Mais enfin, on peut dire qu'il commence sur l'image d'une table, peut-être la vôtre, et d'une fenêtre, sur laquelle est posé un livre, qui est le livre de Sebald, Austerlitz, donc. Et puis on ouvre ce livre et on commence à déambuler avec son personnage Jacques Austerlitz, représenté par Denis Lavant dans le film, partout en Europe, dans différents lieux, dans différentes villes, en quête de ses origines. Et puis, on se rend compte aussi que c'est non seulement une promenade de lecteur, une promenade de ce personnage, mais une promenade avec vous aussi. Et je voudrais commencer justement par une observation personnelle, une sensation personnelle que j'ai eue en regardant votre film. C'est que c'est un film qui paraît tranquille et qui raconte tellement de souvenirs, qui évoque tellement de concepts, qui nous fait voir tellement de choses en même temps, que ça capte l'attention et qu'en même temps, ça nous amène à vagabonder dans ses propres pensées, ses propres souvenirs, de sorte que ce film tranquille, surtout dans la première partie, avant qu'on se concentre sur la quête du personnage, devient un grand brouhaha, enfin un vrai labyrinthe de pensées, de réflexions, de concepts, de mémoires, d'impressions.
Oui, oui. Si vous voulez, le principe du film, de toute façon, comme de tous mes films, hein, c'est qu'il est fait de fragments, de morceaux, qui sont associés de façon à ce qu'ils finissent par tracer une histoire, une trajectoire, mais dont le code n'est jamais donné a priori. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas... d'une certaine manière... Quand vous dites labyrinthe, oui, c'est fait pour qu'on aille quelque part sans jamais pouvoir comprendre exactement où on va. Et sans doute, alors moi, quand je fais ça, je le fais de façon tout à fait naturelle. C'est ma façon à moi de faire des films. Mais sans doute que ça laisse aussi beaucoup d'espace pour que chacun puisse trouver comme ça des résonances qui lui sont propres. C'est-à-dire, si vous voulez, la bizarrerie de ce que je fais, c'est que au fond, c'est un cinéma qui est totalement narratif. Le seul truc qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires avec des images. Et en même temps, ce sont des narrations qui sont des narrations trouées, fragmentaires, tout sauf bétonné au fond, voilà. Et que après, à cause de la nature du livre de Sebald et à cause de ce qui m'intéresse aussi, évidemment chaque moment est en résonance avec des objets, des espaces, du temps, du présent, de l'histoire, de mon histoire à moi, mais aussi de celui qui regarde, s'il a envie de regarder. Hein.
C'est vrai qu'il y a une démarche qui est d'entrer dans chaque détail au fil de la promenade qui fait un peu penser à Georges Perec. J'y pense à l'instant, la vie mode d'emploi, par exemple, qui était d'ailleurs un peu architectural à sa manière.
Oui, alors si vous voulez, moi, je ne suis pas écrivain, je suis cinéaste, donc Perec est une grande référence pour Sebald, dont j'ai adapté le roman, Perec, Kafka, Walter Benjamin, etc. Moi, ma réflexion, elle vient plutôt d'une... c'est ma manière de filmer en fait. C'est une constante dans tous mes films de toute façon que je ne fais jamais de grande synthèse, j'en suis incapable. J'élargis jamais l'horizon énormément. Je suis pas un cinéaste épique, bien que j'admire énormément certains grands documentaristes épiques, et je me concentre toujours sur les échelles les plus petites possibles. Les moments, les objets comme ça, qui me paraissent à la taille de la caméra au fond. Moi, alors oui, c'est ma table. J'adore filmer à l'échelle d'une table, par exemple.
Il y a une telle place centrale du récit, en plus non seulement de la narration, mais finalement du narrateur derrière la narration, alors que le film a fait l'ouverture du festival Cinéma du Réel, mais c'est aussi pour ça que ce festival est formidable. On a envie de vous demander. Qu'est-ce qu'il y a de réel en fait dans ce film, alors, monté de toutes pièces?
Si vous voulez, là aussi, c'est pour moi, c'est une constante. Il y a 10 ans, j'ai fait un film qui s'appelle La langue ne ment pas, sur la langue nazie, que j'ai tourné entièrement en studio et qui a toujours été reconnu comme un documentaire à part entière. Au fond, moi, je fais pas trop de différence entre entre réel, fiction, etc. Réel, qu'est-ce qu'il y a de réel? Tout. Souvent je dis ça, moi je dis, presque en plaisantant, c'est que tant qu'on ne fait pas du cinéma d'animation, et encore, la caméra de toute façon filme toujours un réel quelconque, et que si c'est le réel des mots dits par un acteur, c'est un réel qui d'une certaine manière a autant de validité que la proposition du cinéma direct. Alors maintenant je dirais autre chose, que ce qui reste pour moi une grande différence entre le cinéma que je pratique et la fiction fictionnelle, c'est sans doute je fais des films qui ne prétendent pas à s'emparer totalement du spectateur. Alors c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure en disant que c'était un peu tranquille. Je prétends pas faire des films qui s'emparent comme ça du spectateur et qui le massent ensuite comme la fiction le fait extrêmement bien à coup d'effets, de musique, de relance, etc. Jusqu'au bout. Je le fais évidemment, je suis cinéaste, donc je tiens à ce que la relation avec le spectateur soit constante et tendue, mais en lui laissant sans arrêt des zones où il peut continuer à divaguer à sa guise. Donc pour moi ça c'est très réel comme démarche aussi. Je me refuse à des démarches totalisantes. Voilà. Et donc à partir du moment où on accepte de travailler juste avec des fragments, il y a forcément plus de réalité que dans la grande fiction comme ça qui emporte tout sur son passage. Peut-être, je sais pas.
Absolument, mais la question était faussement candide, mais c'est vrai qu'on se sent pas manipulé, mais je la posais aussi parce que vous jouez ouvertement le personnage à un moment donné, si on avait été trompé.
Il y a cette dimension là et il y a cette dimension ludique, ironique, disons, qui vient du roman de Sebald, où il y a une histoire qui est dramatique, qui occupe le premier plan, mais en réalité, la manière dont le livre lui-même est conçu est beaucoup plus subtile que ça. Et si vous voulez, au fond, moi, parce que c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé, parce que d'une certaine manière, c'est aussi un film sur les images, hein. Puisque la photographie y joue un très grand rôle comme un sens de vérité, hein. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est justement cette idée que au fond la vérité des images n'a pas beaucoup d'importance, que notamment dans ce type de relation comme ça personnelle aux images, à partir du moment où on déclare que l'image est à nous, elle est à nous. Dans le film, le personnage principal trouve une photo de sa mère. L'essentiel, c'est qu'il dise que c'est sa mère. Que ça le soit en réalité, n'a absolument aucune importance. Donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé sur le fait que, au fond, le statut de vérité n'est pas exactement là où on pense. Ce que je dis à un moment dans le film pour rigoler, c'est tout le monde à un moment commence à me montrer des images qui sont presque ça et jamais tout à fait ça. Voilà.
Et vous-même d'ailleurs, au début il y a une image, ce qui est peut-être le moment du film où on a plus l'impression d'avoir à faire un documentaire parce qu'on voit des lieux, des belles églises, mais s'interpose la lentille du personnage qu'incarne Denis Lavant et on retrouve ce motif, je trouvais, de manière assez farceuse, au moment où il regarde l'horloge qui n'a plus d'aiguille et où vous dites je vais la filmer pour voir si je vois ce qu'il y a derrière. Ouais. Si on regarde bien, cette phrase est comme une phrase un peu absurde qui vérifie l'attention du spectateur.
Oui et non, parce que si vous voulez, en fait pour moi elle était parfaitement logique par rapport au fait que ce qui distingue la photographie du cinéma, c'est que dans la photographie, si vous retournez la photographie, si vous regardez ce qu'il y a derrière la photographie, il y a du blanc. Et au cinéma, si vous retournez, si vous allez derrière l'image, il y a une autre image. Donc moi c'est ça qui me plaisait, disons. D'une certaine manière, je pense que autant, si vous voulez, si je devais le résumer comme ça, très, très généralement, je dirais, c'est un film sur le récit. Le personnage principal, à la limite, est moins un personnage qu'un récit lui-même. Dans cette espèce de fonction presque mythique du narrateur, hein. Et c'est aussi un film sur notre relation aux images, notre besoin d'images. Et notre, la manière dont on investit les images, une espèce de valeur de preuve qui est réelle, mais qui n'est pas dans l'image, qui est dans la relation qu'on a avec elle. C'est ça.
J'ai l'impression d'une démultiplication, d'avoir plein de pistes d'amorcer qui vont continuer encore probablement de m'habiter après la fin du film.
C'est le plus grand compliment que vous puissiez me faire, parce que si vous voulez, je pense que pour moi, ce qui est le plus important quand je fais un film, c'est qu'après, ils continuent à travailler pour ce qu'ils l'ont vu, qu'ils continuent à modifier un tout petit peu, même, d'un petit millimètre, leur perception. Quoi. Parce que sinon, ça ne sert à rien.
Je pense aussi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, Stan Neumann.
Merci, et voilà, c'était un plaisir.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.